les autres. Bonne soirée, Marceau s'en vient. Demain, Petit Stop, 7h45, dans le retour à 14h avec les demoiselles.
Salut là!
Boulevard 102 célèbre ses 10 ans. Il y a 10 ans, Leclerc Communication lançait sa radio 100% conçue à Québec et pour les gens de Québec. Le 22 octobre dès 17h, ne manquez pas l'événement 10 ans de Boulevard au Malcommode. Lancement de la bière La Gravelle, édition 10 ans Boulevard. Et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro, qui souligne 20 ans de carrière.
20 ans?
Le 22 octobre dès 17h au Malcommode. Musique live avec Big Bob, un paquet de surprises et une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard. Venez nous rejoindre, c'est ouvert à tous. Gagnez vos billets VIP en écoutant Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Il est de passage en studio ce soir avec nous dans Marceau Soir. Un bon 60 minutes avec Éric Duhaime. Bonjour, M. Duhaime, comment allez-vous?
Bonjour, ça va super bien.
Très content de vous voir. Vous avez fait la manchette aujourd'hui dans la presse. Oui. Je me suis dit, tiens, voilà une excellente occasion et un excellent prétexte de le recevoir en studio. On parle de Constitution du Québec. Vous avez fait une proposition à M. Simon-Jolin Barrette. Quelle était cette proposition-là?
Bien, d'abord, ça s'inscrit dans une longue démarche du Parti conservateur du Québec. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on était réunis en congrès ici à Lévis en novembre 2023, puis on avait adopté une politique très autonomiste par rapport aux relations du Québec avec le reste du Canada. Et on attendait la venue de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta au Québec, qui était de passage à la Chambre de commerce de Montréal lundi dernier, pour annoncer qu'on présentait un projet de loi sur un projet de loi très autonomiste pour réaffirmer les compétences du Québec dans ses juridictions, puis pour pouvoir chasser le fédéral quand il y a des intrusions. L'Alberta a adopté ça il y a 3 ans. Ça s'appelle la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. La Saskatchewan a imité l'Alberta. Ça s'appelle Saskatchewan First. Ils ont adopté une loi qui s'appelle Saskatchewan First. Et l'objectif de ces législations-là, c'est que quand le fédéral intervient dans des champs de compétences des provinces. Dans leur cas, là, c'était beaucoup question d'énergie, environnement, parce que vous savez qu'ils développent leurs ressources naturelles beaucoup plus que nous. Bien, ils peuvent adopter des motions pour empêcher le gouvernement de la province de respecter l'autorité fédérale puis la loi fédérale sur leur territoire. Ils l'ont évoqué à 2 occasions. Ils ont gagné à 2 reprises, okay, l'Alberta, au cours des 3 dernières années. Et donc, c'est dire au Québec, là, on n'a pas fait d'avancée en termes d'autonomie. M. Legault s'est gargarisé de ce mot-là pendant 7 ans, depuis qu'il est au pouvoir, mais il n'y a pas eu d'avancée concrète. Et l'Alberta aujourd'hui, puis ça, c'est très surprenant, puis pour des Québécois nationalistes, et j'en suis, c'est très décevant de voir que le Québec a toujours été le leader de la décentralisation au Canada, puis de l'autonomie provinciale, est aujourd'hui à la remorque, puis que la leader de l'autonomie des provinces au Canada, c'est plus un premier ministre du Québec, c'est une première ministre de l'Alberta qui aujourd'hui se bat bec et ongles contre Ottawa pour respecter ses compétences. Puis dans l'histoire du Canada, il y a eu toutes sortes d'avancées pour les provinces, tu sais, même ici au Québec. On a juste à penser à Maurice Duplessis qui nous a permis d'avoir un impôt sur le revenu provincial. On n'est plus dépendant d'Ottawa, c'est-à-dire que l'argent ne s'en va pas à Ottawa pour revenir vers le Québec. On a aussi ensuite eu la gestion de la TPS TVQ. Hein, on paye ça, puis on envoie ça à Revenu Québec qui, elle, envoie la partie à Ottawa, alors qu'ailleurs au Canada, c'est le contraire. Donc, il y a toujours eu des avancées autonomistes, mais ces 7 dernières années, pardon, il n'y en a pas eu. Et là arrive la dernière année de mandat. M. Legault, qui fait un discours d'ouverture la semaine dernière, il nous dit qu'il veut adopter une constitution, ou en tout cas présenter minimalement une constitution québécoise. Bien, moi, je me suis dit, écoutez, une constitution, ça va être très long à adopter. Ça a besoin d'être transpartisan, ils ont besoin de consultation. Ouais. Puis c'est correct qu'il y a présente le mouche de ceux qui pensent que ça va raffermir le pouvoir québécois d'avoir une constitution du Québec.
Mais quelques mois avant la fin du mandat de François Legault, qui visiblement, si on en croit les sondages, ne sera pas chef aux prochaines élections, là, on va se le dire. T'as pas l'impression que c'est comme un essai de dernier recours pour essayer de faire parler de soi? J'ai pas l'impression que ce gouvernement-là actuel est légitime pour faire quoi que ce soit.
Écoutez, la légitimité, puis je suis content parce que tu poses la question, parce que c'est Michel David dans Le Devoir cette semaine qui avait un bon point là-dessus. Il y a une différence entre autorité morale puis légitimité démocratique. La légitimité démocratique, qu'on aime ça ou non, puis j'aime pas ça, mais c'est le résultat de la dernière élection en 2022 qui est arrivée comme ça. Les Québécois ont choisi de confier un mandat pendant 4 ans à la CAQ de François Legault. Il leur reste un an dans leur mandat. Donc, démocratiquement, ils ont le mandat de poursuivre jusqu'en presque un an jour pour jour, hein, jusqu'au 5 décembre 2026. Mais est-ce qu'ils ont l'autorité morale? Puis c'est là qu'on entre dans ce que tu viens de dire. Un gouvernement, dernière année de son mandat, en perte de vitesse d'un sondage, qui ferait élire aucun député s'il y avait une élection aujourd'hui au Québec, est-ce qu'il peut imposer quelque chose d'aussi fondamental qu'une constitution? La question se pose. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin de consulter encore plus que les autres, puis il y a besoin de l'appui des autres partis encore plus dans un contexte comme celui-là. Puis moi, je ne suis pas fermé à ça. J'ai vu le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est sorti pour dire qu'il était contre. Il n'a même pas encore lu le document. Je veux dire, il est contre pour être contre parce que ce n'est pas lui qui le présente. Je trouve ça assez juvénile comme comportement. Moi, je suis ouvert. Moi, je veux le lire avant, évidemment, de donner mon appui, mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Puis on va juger l'arbre à ses fruits, on va l'éplucher comme il faut, on va consulter des juristes, des constitutionnalistes pour s'assurer de la conformité. Mais même si c'est un gouvernement qui n'a plus d'autorité morale puis qui est en fin de régime, s'il propose des bonnes choses, bien, on devrait le soutenir.
Ouais. Et dans le cas où M. Simon-Jolin Barrette acquiesce aux demandes des conservateurs, oui, est-ce que ça devra passer par l'Assemblée nationale, oui, et ensuite être accepté par Ottawa? Ça fonctionne
non,
comment?
Non, Ottawa n'a pas besoin de... L'Alberta, par exemple, ou la Saskatchewan, quand ils ont adopté leur projet de loi, ils n'ont pas eu besoin de l'intervention d'Ottawa. Au contraire, c'est une charge contre Ottawa. Donc, ils ont adopté leur propre loi. Puis c'est beaucoup plus facile, ça serait beaucoup plus rapide à faire. Puis je pense qu'il y aurait un consensus plus évident à mettre en place. Je pense pas qu'il y a beaucoup de partis qui s'opposeraient à combattre l'ingérence du fédéral. Je comprends que Pablo Rodriguez, par exemple, le chef des libéraux, il a déjà joué dans ce film-là du côté fédéral, puis qu'il a déjà envahi des compétences du Québec. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'on lui rappelle qu'il est rendu chef d'un parti sur la scène provinciale. Il pourra pas défendre l'ingérence fédérale. Je pense que ça serait beaucoup plus facile d'avoir l'unanimité très rapidement, faire adopter ça. Puis ça serait peut-être même un jalon pour aider à l'adoption éventuelle d'une constitution. Moi, je le vois pas comme incompatible. Fait que aujourd'hui, j'ai déposé le projet. C'est un ébauche de projet de loi, hein, parce que ça peut être bonifié. Là, si les autres ont des meilleures idées que moi, ils veulent ajouter, modifier. Moi, nous autres, on est ouverts aux suggestions. Là. Mais c'est, moi, je pense que le ministre a intérêt à regarder ça puis à essayer de ratisser le plus large possible sur cet enjeu.
Est-ce qu'on est rendu là à la Constitution parce qu'on ne veut plus se faire dicter par des gens qui sont déjà chez nous comment on devrait vivre? Parce que je regardais les chiffres pour ce qui est de 2050. Les bons Québécois de souche qu'on appelle font plus d'enfants. Les gens qui arrivent ici en immigration se sentent très à l'aise, très en sécurité et décident de faire plusieurs enfants. À un moment donné, on ne sera plus roi et maître chez nous. Donc, est-ce que c'est le moment de la mettre en place pour dire, si vous venez ici, voici comment ça va être laïque, puis les prières de rue, ça ne sera plus ça. Ça va être directement dans vos églises, dans vos mosquées, puis c'est là que ça va se passer. On est-tu rendu là, Éric?
J'espère, parce que t'as raison, Yannick, de souligner une chose, là. Le visage du Québec est en train de changer.
Ben oui.
Puis même ici à Québec, c'est pas juste à Montréal. Là. Arrêtez de penser que c'est à Montréal. Puis même dans les régions, là, j'arrive d'une élection partielle dans Arthabasca, là, même dans les villages, tu le vois, là, le Québec change profondément. Mm-hmm. Quand tu vois à l'école, là, tu vois que les petits blancs francophones, catholiques, québécois de pure laine, de souche, je vais appeler comme tu voudras, là, ils sont de moins en moins nombreux d'une année à l'autre. Et il y a de plus en plus de nouveaux arrivants. Dans certains cas, l'intégration, dans la majorité des cas, l'intégration se fait très bien. Dans d'autres cas, c'est plus problématique. Mais les gens se disent ça va beaucoup trop vite à l'heure actuelle. Puis ça, je pense qu'il y a un consensus. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui me disent que ça va pas trop vite. Là. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça n'a pas de sens ce que le gouvernement libéral à Ottawa a fait ces dernières années au niveau de l'immigration de masse. Et ça, il faut que ça freine. Puis justement, le fait d'avoir un projet de loi sur l'autonomie comme celui qui est présenté aujourd'hui par les conservateurs permettra à l'Assemblée nationale de parler d'une seule voix et dire qu'il n'est pas question qu'on accepte les politiques migratoires d'Ottawa qui sont en train de nous noyer culturellement puis linguistiquement. Je pense que ça serait beaucoup plus facile de le faire. D'ailleurs, les partis politiques au Québec, là, les gens oublient ça, là, mais on est à peu près unanime à dénoncer. En fait, pas, on est supposément unanime à dire que le Québec devrait contrôler davantage son immigration sur son territoire. Puis pourtant, Ottawa continue à nous enfoncer dans la gorge ses politiques sans respect des compétences québécoises. Donc, je pense que c'est un bel exemple. C'en est un. Là, on pourrait parler des ressources naturelles aussi, où ils mettent des bâtons dans les roues à Hydro-Québec, ou même quand on veut exploiter notre gaz, ils mettent toutes sortes de normes environnementales pour ralentir les processus, pour tuer l'initiative des provinces. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de juridictions où on pourrait faire ça. Puis l'autre élément aussi, qui est peut-être encore plus rassembleur puis plus porteur à long terme, puis c'est à l'intérieur du projet de loi que j'ai présenté aujourd'hui, c'est de faire systématiquement des alliances avec les autres provinces quand ils contestent eux aussi l'autorité fédérale dans d'autres champs de juridiction. Donc, d'être solidaires entre provinces pour se tenir debout contre les envahisseurs d'Ottawa. Et ça, je pense que ça va être bien apprécié, pas juste au Québec, mais à l'extérieur du Canada. Tu sais, moi, mon but, là, Yannick, c'est arrêtons là, de planifier puis de préparer un troisième référendum perdant du PQ. C'est le pire des scénarios au niveau constitutionnel.
Bon, on sait très bien, toi et moi, qu'ils vont reculer sur cette promesse-là, qui est leur première promesse. Mais je veux dire, on va aller se planter une troisième fois. C'est en route vers le troisième fail monumental. On sait quoi, ça va être un 4 de 7 par la suite, je sais pas.
Non, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on a perdu un référendum, le Québec, c'est pas juste le camp du oui, là, c'est pas juste le Parti québécois, le Québec a reculé. Le premier référendum en 80, on s'est fait rentrer le rapatriement unilatéral de la Constitution contre la volonté des Québécois.
Ouais.
En 95, la défaite référendaire a fait en sorte qu'ils nous ont adopté une loi sur la clarté référendaire qui a diminué le pouvoir du Québec de décider de son avenir. Et là, ça va être quoi la troisième défaite du PQ, là? Et à un moment donné, c'est pas le bon modèle. Nous, ce qu'on dit au Parti conservateur, c'est qu'il y a plein de gens au Canada anglais qui pensent comme nous. Danielle Smith, qui était à Montréal cette semaine, la première ministre de l'Alberta, c'est un exemple, est aussi décentralisatrice que nous, même peut-être plus à plusieurs égards. Pourquoi on fait pas des alliances avec nos partenaires canadiens anglais? Pourquoi on n'unit pas les Québécois? Parce qu'on est pratiquement unanime pour dire qu'on veut se gouverner nous-mêmes. Le Canada, l'avantage, c'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que l'avantage du Canada, c'est quoi? C'était historiquement, là, c'était d'avoir un marché commun. C'est pour ça qu'on a bâti un chemin de fer d'est en ouest au départ. C'était de se protéger pour pouvoir survivre puis être plus grand que juste notre province. Puis aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Bien, on se rend compte que les Américains sont en train de fermer les frontières. Puis c'est peut-être pas juste une question du président actuel. Hein. Cette politique-là va peut-être durer, même s'il change de parti, même s'il change de président aux États-Unis. C'est pas impossible que c'est la nouvelle réalité. Là. C'est un gouvernement qui va mettre beaucoup de tarifs sur ce qu'on exporte puis on importe avec nos voisins du Sud. Fait que le marché canadien devient encore plus important. Puis là, on voit que les provinces, particulièrement le Québec, qui est la pire à cet égard-là, on a beaucoup de barrières interprovinciales. C'est-à-dire qu'on empêche, ou en tout cas, on diminue les échanges de personnes. Je vais te donner des exemples. Un gars de la construction qui veut venir travailler au Québec, qui est de l'autre côté à Ottawa.
C'est protégé.
Il ne peut pas rentrer une livre de beurre parce qu'elle n'est pas emballée dans le papier d'aluminium. Elle ne peut pas passer de l'Ontario au Québec. Même des tissus que tu trouves dans des sièges d'auto puis des sièges tout court, parce qu'il n'y a pas certaines affaires de recyclage de je ne sais pas quoi. On empêche les sièges d'entrée de d'autres provinces pour protéger un marché local. Tout ça, là, ça nuit à l'économie globale. Et on gueule contre les tarifs de Donald Trump, mais nous-mêmes, entre Canadiens, entre provinces canadiennes, on se met des barrières comme Trump n'en met entre nos deux pays.
Mais il va falloir faire quelque chose. T'sais, hier, j'écoutais la conférence de presse de Donald Trump avec Mark Carney qui a parlé 2% du temps contre 98% pour ce qui est du Grand Range. Il faut le comprendre que le Grand Range, c'est plus notre grand frère là, qui nous protège puis qui va toujours être là pour nous aider à faire des affaires puis parfois nous faire certaines fleurs. Là, il l'a dit clairement, le Canada et les États-Unis sont en compétition pour les mêmes marchés, ce qui fait en sorte que lui, c'est America First.
Oui.
Comme au Québec. Le Québec, il y a beaucoup de protectionnisme québécois. Là. C'est Québec First.
Il est très péquiste, le Grand Range, puis il le sait pas.
Ben, tu sais, c'est ce que je disais ce matin des auditeurs qui n'étaient pas d'accord, mais si on avait à regarder le côté protectionniste de Donald Trump, là, ben, c'est le Parti québécois.
Ouais, c'est la version péquiste made in USA.
C'est la même chose. Donc, il va falloir trouver une façon, nous, au Canada, de faire des affaires avec d'autres gens dans d'autres pays versus constamment dépendre des États-Unis parce que visiblement, ça semble plus faire l'affaire des Américains. Le taux d'imposition pour ce qui est des entreprises, il l'a baissé l'autre bord. Ce qui fait en sorte que le Canada devient moins attractif pour des entreprises étrangères qui voudraient venir s'établir ici en Occident. Tu regardes le Canada, tu regardes les États-Unis, tu regardes le taux d'imposition, ça semble être extrêmement compliqué de faire des affaires au Canada. Ben pouf, c'est moins cher, on va aller aux États-Unis. Il va falloir faire attention. Tantôt, là.
Il faut faire un ménage dans tout ça, puis les provinces ont un gros rôle à jouer pour éliminer les barrières entre les provinces. Justement, j'ai rencontré Danielle Smith dimanche avant qu'elle fasse son discours lundi à Montréal. Là. J'ai eu un long entretien avec elle, puis elle m'expliquait qu'elle, depuis qu'elle est arrivée première ministre, ça fait à peine 3 ans, là, elle a éliminé la moitié des barrières qu'il y avait au niveau commercial entre l'Alberta et les autres provinces canadiennes. Elle a fait ça en 3 ans d'éliminer 50 %. Nous autres, probablement qu'au Québec, on s'est en allé de l'autre sens pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on a encore probablement plus de barrières aujourd'hui qu'on avait au moment où la CAQ est arrivée au pouvoir. Donc, à un moment donné, il faut réaliser que les entreprises, là, ce n'est pas nos ennemis. On en a besoin. Un développement industriel, c'est quelque chose de positif. Il y a un déclin au Québec et au Canada ces dernières années. Puis on se fiait, comme tu dis, au fait qu'on avait le meilleur voisin du monde, le plus gros, le plus riche, puis qui achetait tous nos produits, puis qu'on avait la balance commerciale la plus... Parce que c'est ça qu'il faut savoir, la plus positive, c'est-à-dire que les Américains étaient très déficitaires. Là. Ils achetaient beaucoup plus nos produits que nous autres, on achetait les leurs. Là. Et donc, c'est pour ça que ça nous fait beaucoup plus mal à nous. Non seulement on est plus petits, mais en plus, on avait plus d'entreprises qui dépendaient d'eux que eux d'entreprises qui dépendent de nous. Donc, toute cette nouvelle réalité-là fait qu'il y a une pression politique qui n'existait pas. Tu sais, on parle beaucoup présentement, pourquoi c'est en train de bouger à droite l'échiquier politique? Je pense que tout le monde au Québec est en train de réaliser qu'il se passe quelque chose. Puis la montée du Parti conservateur, c'est un des symptômes, mais c'est pas le seul. Là. Puis la raison, c'est ce qu'on est en train de discuter là, Yannick. Là. C'est que les... Je vais te donner l'exemple bien niaiseux. Là. Juste le fait qu'on ait une taxe carbone au Québec et qu'on est les seuls au Canada à voir ça, là. As-tu pensé le désavantage de nos entreprises? Hein?
C'est 20 cents du litre?
Nos agriculteurs, là. Je m'excuse, mais les tracteurs, ils roulent pas à l'air ni à l'électricité. Là. Et ces gens-là, quand ils vendent leurs produits, ben veut pas, ils payent 20-25 sous le litre de plus que tous les autres compétiteurs ailleurs au Canada. Puis ça, c'est juste un exemple. Là. Et donc, on est en train de se tirer dans le pied quand on veut de plus en plus taxer. C'est pour ça qu'il faut déréglementer, enlever des taxes, puis permettre à ces gens-là de pouvoir exporter plus facilement vers d'autres marchés. Mais c'est un gros changement de paradigme qu'il faut opérer au Québec.
Puis cette fameuse bourse du carbone-là, ou taxe carbone, appelons-la comme ça, là. Les entreprises de camionnage m'ont régulièrement mentionné que la dernière des choses à faire, pour ce qui est des entreprises qui font de l'exportation vers l'Ouest canadien ou encore vers les États-Unis, la dernière chose à faire qu'on donne à faire aux camionneurs, c'est d'acheter de l'essence au Québec. Si possible, si vous arrivez vers Ottawa, là, commencez à penser à faire le plein parce que venez pas mettre de l'essence directement chez vous. Ça va vous coûter plus cher, ça va nous coûter plus cher, puis on va être perdant là-dedans. On perd aussi de l'argent.
Énormément. Les stations d'essence à la frontière du Québec puis de l'Ontario, du côté ontarien présentement, font depuis le mois d'avril dernier des affaires d'or comme ils n'ont jamais fait de leur vie. Il y a des camions en ligne. Puis eux autres, ils mettent pas ça à coût de 40$ de gaz, ils mettent ça à coût de 1000$, OK? Fait calcul 20 cents, 25 cents le litre. Combien d'argent le Québec perd? Trop de taxes tue les taxes. Hein? C'est un adage qui est connu, ça. Puis là, on est en train de le vivre. Parce que puis j'essaye d'ailleurs d'avoir les chiffres, mais évidemment, ça ne fait pas encore assez longtemps. Mais l'an prochain, on va avoir les chiffres. On va voir combien de litres de moins on a vendu au Québec, puis combien de litres de plus ils ont vendu en Ontario. Puis c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas juste les taxes carbone, il y a toutes les autres taxes, la taxe provinciale sur l'essence, la taxe sur le transport en commun, la taxe d'assises, la TPS, TVQ. Combien de toutes ces autres taxes-là, comme revenu, le Québec a perdu? Puis ça ne sera pas impossible, je ne suis pas sûr là, de ce que je dis là, parce qu'on n'a pas les chiffres, mais c'est pas impossible qu'on va faire moins d'argent parce qu'on a trop taxé. Fait qu'on a non seulement les contribuables et les automobilistes vont avoir payé plus cher, mais le gouvernement va se ramasser avec moins d'argent à la fin de la journée dans ses coffres parce qu'il a fait fuir les camionneurs pour gazer aux frontières.
Oui, t'expliquais aussi qu'il y avait une montée de la droite. Et puis là-dessus, la droite économique, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je voulais parler de ça parce que j'ai l'impression des fois qu'on assiste au phénomène du pas dans ma cour. Tant que c'est pas arrivé chez nous, ça n'existe pas. Mais les Québécois, dans les dernières années, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Puis hier, sur ta page Facebook, tu donnais des statistiques. Ouais. Je pense que c'était un reportage qui avait passé dans le Journal de Québec. Là. Un Québécois sur deux est à 200$ de l'insolvabilité. Le prix du panier d'épicerie n'arrête pas de monter. Les jeunes n'ont pratiquement plus accès à la propriété. Un propriétaire de maison sur quatre a de la difficulté à renouveler son hypothèque. Un Québécois sur 10 fréquente une banque alimentaire pour nourrir sa famille. Mais c'est ça. C'est des gens qui, il y a de ça 4, 5, 6, 7, 8 ans, disaient ben, « c'est pas si grave que ça ». C'est un gouvernement qui est à gauche, c'est un gouvernement qui est dépensier. Mais le jour où ça nous revient d'en face maintenant, « Oh, attends un peu, j'ai de la misère à payer mon renouvellement d'hypothèque, je vais être obligé de vendre ma maison, ce qui n'a pas de sens. Je suis obligé de vendre ma maison parce que les taux hypothécaires ont augmenté. » Bien là, ils l'ont d'en face, alors que la vague commençait voilà une couple d'années. Là.
Écoute, pense-y, là. Une personne sur deux est à 200$ d'être insolvable. Pendant ce temps-là, regardez juste dans les dernières semaines tous les scandales. À matin, là, ça ne s'invente pas, c'est arrivé à matin. Là. Thomas Gerbet dans Radio-Canada sort qu'on a perdu, le gouvernement du Québec a perdu 400 millions dans Airbus. Okay? La semaine passée, il avait perdu 200 millions dans le projet informatique à Santé Québec. La semaine d'avant, c'était 500 millions dans recyclage Varenne. Le mois passé, c'était 700 millions dans Northvolt. Puis une couple de semaines avant, c'était 450 millions dans Lyon Électrique. Puis là, j'ai pas fait la liste au complet. Là. J'y vais juste avec les gros titres de ce qui a retenu le plus l'attention des semaines qui précèdent.
Ouais, mais M. Legault va vous dire, M. Duhaime, vous regardez pas la moyenne au bâton, vous regardez juste les coups dans le beurre.
Bien, la moyenne au bâton, là, c'est que les marchés financiers, là, les gens qui ont des actions en bourse, ont vu leur actif monter comme jamais dans les dernières années, alors que le gouvernement du Québec perd de l'argent année après année. Fait que je sais pas de quelle moyenne au bâton il parle. Le bâton, il se laisse accrer ça à la tête, là. Je veux dire, c'est pas pour rien que je regarde aussi ces sondages, là, puis ça comme sa moyenne au bâton, c'est en chute libre, et il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens sont à 200$ d'être insolvables. Le monde a de la misère à l'épicerie. Ils regardent toutes les étiquettes puis ils cherchent les spéciaux parce qu'à tous les semaines, on voit la facture gonfler. Il y a personne qui nous écoute qui n'a pas réalisé ça, là, que le steak coûte plus cher puis que quand il arrive à la caisse, à l'épicerie, à toutes les semaines, il a l'impression que son panier ratatine puis la facture explose.
C'est une catastrophe. Je suis rendu abonné au rabais, moi, là.
Bien, on n'a pas le choix. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement... Ah, un petit 200 millions dans le système informatique du Santé Québec. Ah, un petit 400 millions qu'on va perdre dans Airbus. Ah, un petit 500 millions de trop dans sa clique. C'est vrai, je l'avais oublié, celui-là aussi. Mais c'est comme ça tout le temps. C'est des milliards et des milliards. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont une philosophie d'intervention de l'État. Puis c'est ça qu'il faut retourner, là. Quand même qu'on changerait la face puis le logo du parti au pouvoir, là, ça ne changera rien. Si on met Paul Saint-Pierre Plamondon ou François Legault là au pouvoir, ça, c'est la même chose là, à ce niveau-là. Évidemment, il y en a un qui veut un référendum, l'autre n'en veut pas, là, mais ce n'est pas ça que je parle. Là. Mais au niveau d'investir dans des entreprises puis de dilapider l'argent du monde là, puis de continuer à vous taxer toujours trop, là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Là. Et pensez-vous que, tu sais, quand François Legault a annoncé qu'il mettait 450 millions dans Lyon Électrique, Paul Saint-Pierre Plamondon applaudissait à deux mains là, puis disait que c'était pas encore assez, là, puis ouais. Ça prenait plus de projets comme ceux-là. Donc, il faut qu'on change de mentalité. C'est pas le rôle du gouvernement de choisir des gagnants puis des perdants, puis de prendre votre argent, puis de gambler, puis de jouer au casino dans des entreprises privées. Il faut se débarrasser de ce réflexe. On est le gouvernement qui intervient le plus à ce niveau-là sur le continent, puis on est dans le peloton de queue quand il arrive en termes de résultats. Posez-vous pas la question, il y a un lien entre les deux. Là. Ouais.
Puis tu sais, on parlait là, 10, 15, 20 ans, tu faisais des chroniques à la radio, oui. Puis on parlait des enfers fiscaux. Ben, si l'enfer fiscal existe, si les paradis fiscaux, excuse-moi, existent, c'est parce que les enfers fiscaux existent.
Si on est l'enfer, c'est ici.
Le Canada, c'est un enfer fiscal. Le Québec, c'est un enfer fiscal. Puis là, ben, on voit des entreprises qui voudraient peut-être venir chez nous, regardent ça, puis ils disent « Ah ben, on va aller faire un tour du côté des États-Unis à la place. » Est-ce que c'est le rôle de l'État, si on avait un gouvernement conservateur au Québec, c'était Éric Duhaime qui est premier ministre, est-ce que c'est le rôle de l'État d'investir des sommes astronomiques d'argent pour intéresser des entreprises de l'extérieur à venir s'établir chez nous? Parce que je regarde les statistiques pour ce qui est du Québec, les PME du Québec, c'est le poumon du Québec.
Oui. Le rôle du gouvernement, là, c'est qu'il y ait un climat fiscal le plus compétitif possible. Pas pour une entreprise à qui tu donnais un chèque, tu fais des grosses conférences de presse, tu es avec Fitzgibbon puis Legault, puis tu disais, hey, on va être l'endroit au monde où toutes les batteries vont être construites, puis on va être les leaders, on va battre les Chinois sur leur terrain pour l'électrification des transports. Ça fait des belles conférences de presse, le plus gros investissement de l'histoire du Québec, mais ça fait aussi le plus gros fiasco financier de l'histoire du Québec. C'est pas ça. Si on veut avoir un avantage par rapport à nos concurrents, il faut réduire les taxes et les impôts de tout le monde, s'assurer qu'on a des infrastructures publiques qui sont fonctionnelles, puis s'assurer qu'on a une main-d'œuvre qualifiée, scolarisée. OK? C'est ça qui attire des bonnes entreprises. Le reste, là, les subventions, c'est bon, rien. Oui, ils vont venir têter. Toutes les compagnies, n'importe où dans le monde, vont être intéressées de têter une subvention si on est assez tatable, lui mettre de l'argent dans les poches. Mais dès que la subvention est finie, qu'est-ce qui arrive? Soit qu'ils sacquent le camp ou soit qu'ils déclarent faillite puis qu'on se retrouve gros gens comme devant, comme ça arrive semaine après semaine ces derniers temps-là. Donc, c'est pas la façon de faire. Puis j'espère qu'on va collectivement, puis c'est pas juste une question de parti, là. Il faut qu'on prenne conscience, tout le monde là, qui écoutez, vous avez une responsabilité, c'est pas juste le rôle des politiciens, là. Il faut qu'on s'éduque économiquement puis qu'on se dise, ça ne marche pas de donner des subventions pour attirer du monde puis essayer de créer des jobs artificiels.
commençons à mettre en place ici un système qui va bien fonctionner, qui purgera pas l'argent des Québécois, puis abaissons les impôts pour ce qui est des Québécois puis des entreprises. Ça pourrait être aussi attrayant que les États-Unis actuellement. Est-ce que avec un gouvernement du Parti conservateur, si un jour ça arrive, parce que vos sondages vont très bien, on va se
dire, super bien,
vous restez en place, vous vous approchez de plus en plus de la coalition Avenir Québec?
En fait, c'est intéressant. Là. On est en avance de la CAQ selon Palace, selon Angus Reid. Et le dernier léger nous met à 1 % de la CAQ. Donc, on est vraiment dans la zone. Soit qu'on est un petit peu en avant, un petit peu en arrière, mais disons qu'on est à égalité virtuelle.
Puis vous attribuez ça à quoi, justement, votre montée dans les sondages ou le fait que vous avez coté la coalition Avenir Québec? C'est-tu parce qu'eux autres sont mauvais ou c'est vous qui vous améliorez sondage
après sondage? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est exceptionnel qu'un parti qui n'a pas de député puis pas de budget de l'Assemblée nationale soit plus haut que ce qui était aux dernières élections. Juste pour vous donner un exemple, là, Québec solidaire, ils ont 12 députés, ils ont 3 millions de dollars de budget de recherche et de communication à l'Assemblée nationale, puis ils ont des questions tous les jours. Puis aujourd'hui, là, on ferait 2,5 fois plus qu'eux s'il y avait une élection. Nous autres, on a zéro. OK? Zéro député, zéro budget, zéro question. Donc, c'est quand même, tu sais, on se bat avec une claque puis une bottine contre des canons, puis on réussit à battre les canons. Là. C'est un peu ça qui est en train de se produire. Puis le gouvernement, j'en parle pas, c'est encore pire, là, en termes de moyens démesurés par rapport à nous. Mais à quoi on attribue ça pour répondre plus précisément à la question? C'est drôle, mais j'ai l'impression que François Legault, en faisant son virage à droite récemment, puis là, vous l'avez vu quand il y a eu le remaniement ministériel, il a commencé à parler là, qu'il voulait donner des mandats là, de réduire la taille de l'État, arrêter les folies vertes, de partir en guerre un peu contre les syndicats, contre le corporatisme syndical. Bien, les gens se sont dit, ouais, c'est vrai, c'est des bonnes idées, ça. Mais c'est qui est porteur de ces idées-là? C'est-tu François Legault qui a fait le contraire pendant 7 ans ou c'est Duhaime qui a toujours dit la même affaire, même si contre vents et marées, malgré les sondages, qui a toujours maintenu le cap? Puis je pense que le fait d'avoir été sincère, d'avoir eu des convictions, des valeurs, puis de les avoir exprimées devant ceux qui aiment ça comme devant ceux qui n'aiment pas ça, bien, je pense qu'à long terme, ça paye. Puis je pense qu'on est en train de rentrer dans la zone payante, dans le sens où les gens réalisent, oui, ces idées-là, t'es finalement pas si folle que ça, malgré le fait qu'on a été diabolisé pendant longtemps pour véhiculer ces idées-là. Puis là, ils se disent, qui est le meilleur pour incarner ces valeurs-là? Fait que le dernier sondage où François Legault a fait son discours d'ouverture, puis il a fait son virage supposément à droite, puis qu'il a donné des mandats à tous ses ministres d'aller dans ce sens-là, bien, vous avez vu que la CAQ a pas bougé, puis le Parti conservateur a monté de 4 points. Parce que les gens se sont dit, bien, si les idées sont bonnes, pourquoi qu'on vote pas conservateur pour les mettre en place?
Parce que c'est particulier ce qu'on vit. On regarde sur la scène fédérale, on a un Mark Carney qui a fait une campagne à gauche et là, qui a commencé, une fois être au pouvoir, à regarder ce qui se passait dans le cahier de jeu de Pierre Poilievre. Puis au Québec, même affaire, on a un gouvernement qui est fatigué, qui ne sait plus comment remonter dans les sondages, qui s'en va regarder le cahier de jeu du Parti conservateur. Bien, je comprends que les Québécois, des fois, peuvent s'en rendre compte aussi qu'on essaie de les bourrer.
Mais moi, je suis content que les autres partis nous copient. Puis c'est pas juste en passant la CAQ. Hein? Même les péquistes et les libéraux, sur certains enjeux, commencent à nous copier. Les libéraux viennent d'aller chercher, comme président de leur commission politique, Martin Coiteux, le ministre de l'austérité de l'époque Couillard, parce qu'il trouvait que Pablo, trop à gauche, trop trudeauiste, ça levait pas assez. Le Parti québécois commence à dire que finalement, le prix du gaz, moi, c'est vrai que c'est un peu cher, il faudrait peut-être faire quelque chose pour réduire le prix de l'essence pour les Québécois. Puis la CAQ, évidemment, qui est carrément rendue dans notre lunch, là, eux autres, c'est les syndicats, faut limiter ça. Ils ont quasiment fait un copier-coller de ce que j'avais déjà écrit, « Libérez-nous des syndicats », il y a 12-13 ans. D'ailleurs, j'étais allé porter une copie de mon livre au ministre Jean Boulet dans son bureau de circonscription à Trois-Rivières la semaine passée. J'espère qu'il va l'utiliser pour ses discours. Puis les autres virages, mais c'est réduire la taille de l'État. Ils veulent réduire de 6 000 fonctionnaires. Nous autres, on dit qu'il faut réduire de 10 000 depuis très longtemps.
Ça, j'ai des promesses de 2017 qui remettent de l'avant à la dernière année de son
mandat.
Après
avoir embauché 10 000 personnes de plus. Donc, fait que c'est ça. Ils sont en train de tous faire ce virage-là. Puis écoute, il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, il y a 12 jours, Bernard Drinville qui annonce que finalement 100 % de véhicules électriques en 2035, c'est peut-être pas réaliste. On va commencer à baisser nos cibles. Christy, je t'avais d'aller porter un sticker, mon char, mon choix, puis de le mettre sur sa limousine. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on dit au Parti conservateur depuis des mois, des années. Ouais. Et là, finalement, oups, ils viennent de voir la lumière parce qu'ils voient l'échéance électorale qui arrive, puis ils voient que les gens, là, c'est pas tout, tu sais, ils seront pas remplis une deuxième fois, là.
Éric Duhem, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Je vous rappelle que je suis avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, pour 60 minutes. Après la pause, je veux te parler de deux choses. Les signatures de contrats du provincial avec des entreprises privées qui sont une problématique là, pour les finances du Québec quand ça va pas nécessairement bien. Puis je veux te parler des Hells Angels qui se présentent maintenant, des motards qui se présentent maintenant comme conseillers dans une ville en particulier. On en parlera tout de suite après la pause, mais ça, c'est deux bons sujets qui vont faire en sorte que, d'après moi, les gens vont rester dans leur voiture ou vont réécouter ça en podcast. Si vous voulez nous joindre en studio, pour ce qui est de ce soir, vous pouvez communiquer avec moi sur Messenger sans aucun problème. Yannick Marceau, si vous avez des questions pour le chef du Parti conservateur. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Radio! Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parlé en semaine.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Profitez de 30 à 50 % de rabais sur une grande sélection de vêtements et chaussures pour toute la famille. Détail en magasin, Sport Expert d'ici.
Salut les enfants, quoi de neuf pour ce mois-ci?
Chez Levi Chrysler, on a le Ram 2026 garantie 10 ans, 160 000 km à 0 % sur 72 mois. On a vraiment confiance dans notre pick-up.
Chez Levi Mazda, le CX-30 en location 48 mois à 93 $ par semaine, il est beau là, le CX-30, puis il est fiable à part de ça.
C'est bon, on y va avec ça. Et n'oubliez pas que c'est le temps de faire poser les pneus d'hiver. Il nous reste de la place.
Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous.
Chez Desjardins Assurance, vous pouvez assurer votre auto en ligne. Et c'est super simple.
Ah ouais.
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre enfant faisait des bricolages tous les jours depuis 80 ans.
Regarde, papa.
Ah, t'as fait une fusée. Grande comme la maison. Puis, elle vole.
Vous voyez?
Ouais, c'est vrai qu'ils doivent être bons.
Desjardins Assurance. C'est pas d'hier qu'on assure. Et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Tu sais que t'as jusqu'au 1er décembre pour mettre tes pneus d'hiver?
Ouais, je sais.
Qu'est-ce que t'attends?
Bon point.
Point S, pneus et mécanique.
Sais-tu pourquoi Point S, ils ont bonne réputation?
Parce qu'ils sont bons.
Parce qu'ils sont bons.
Bon point.
Point S, pneus et mécanique. Obtenez l'installation gratuite à l'achat de 4 pneus Michelin sélectionnés. Offre valide jusqu'au 12 octobre. Détails à points.ca.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Oui, allô?
Pierre-Luc, mon cousin préféré, j'ai reçu ton courriel.
Quel courriel?
Ben, les offres que tu me fais, parce qu'on est dans la même famille, là, sur le Taos, l'ID4, la Jetta, l'ID Buzz.
Ah, oh, le Volksfest? Ouais, mais ça, c'est pour tout le monde.
Hey, des offres à 0 % sur les modèles sélectionnés, le Bonnie Volksfest, t'es fou!
Oui, mais t'as compris que c'était pas juste pour toi, là, c'est vrai.
Ok, Pierre-Luc, si tu le dis.
Ouais, ben, je te le dis, là.
Volksfest, c'est pour tout le monde. Profitez d'offres à partir de 0 % et obtenez jusqu'à 1000 $ en Bonnie Volksfest sur certains modèles. Faites vite, les offres se terminent le 31 octobre. Sur approbation du crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Quoi de plus réconfortant que le légendaire pâté à l'oie de Normandin? Fabriqué à la main et authentiquement maison, dès la première bouchée, vous succomberez. Le pâté à l'oie, c'est la tradition réinventée par Normandin. Généreusement garni d'oie, de viande et de pommes de terre sous une pâte dorée et feuilletée. Accompagné de leur ketchup aux fruits maison, il est doublement savoureux. Au comptoir du pré-emporté ou en salle à manger, dépêchez-vous d'en profiter, car le pâté à l'oie est offert pour un temps limité. Normandin, ça fait plaisir.
Plongez dans 888casino.net, conçu pour jouir des machines à sous primées, pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir, pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net, fait pour jouer.
19 plus, jeux gratuits uniquement, jouer de façon responsable.
Telio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Telio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
En montant dans la nouvelle Prius hybride branchable chez votre concessionnaire, vous pourriez être transporté loin de la ville où le seul bruit est celui d'un criquet vraiment en forme. Parce qu'avec une autonomie hybride aussi impressionnante, votre petit coin de paradis peut être à la fois plus loin et moins cher. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de ramener la Prius à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 4000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous pour les prochaines minutes. Éric Duhem, merci d'être là. Soit dit en passant, je sais que tu as un horaire
grand plaisir.
Très chargé. Tu as eu des choses à annoncer aujourd'hui, puis tu prends la peine de venir nous parler de ça ce soir. C'est très, très, très apprécié. Les signatures de contrats pour ce qui est du gouvernement envers les entreprises privées. Dans la commission Galland, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de porte de sortie, puis on n'avait pas le choix. Fallait payer. Puis dans d'autres cas, fonctionnaires de l'État qui disaient, on est obligé d'annuler ce contrat-là, même si ce n'est pas inclus, on va vous donner un montant supplémentaire pour se faire pardonner, comme si c'était son argent. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le dossier de santé numérique, il va y avoir encore des pénalités. Il n'y a pas un problème avec la signature de contrat. Tu penses-tu que les hommes et les femmes d'affaires qui nous dirigent, qui sont pour la plupart, si je prends François Legault, indépendant de fortune, ou encore Pierre Fitzgibbon, indépendant de fortune, tu penses-tu qu'ils signent leur propre contrat de cette façon-là, avec des way out pour des entreprises où ils vont devoir donner des millions et des millions?
C'est une très bonne question que tu poses là. Puis la réponse, là, c'est d'abord et avant tout, réduisons la taille de l'État puis l'intervention de l'État dans nos vies puis dans notre économie pour réduire au maximum, justement, des contrats qui sont donnés par des appareils publics où les individus qui prennent les décisions, ultimement, ne sont pas imputables. Parce que oui, il y a une élection, là, puis ils sont imputables par les élections une fois aux quatre ans, mais une entrepreneur qui signe, ou même un individu qui signe un contrat, tu vas acheter un char, puis tu fais un mauvais deal, puis tu n'as pas acheté le bon, là, ou tu as payé bien trop cher par rapport à ce que tu es capable de payer, bien, c'est toi qui vas subir les conséquences.
Exact.
Les gens qui ont signé des contrats, qui nous ont attaché les deux mains, qui ont mis des clauses qu'on n'aurait jamais vues dans un contrat dans le privé pour qu'on paye, même si on n'utilise pas le service. Parce que c'est ça, là, il y a des contrats carrément que c'est ça qu'on a appris à la Commission Galland. Bien, ces gens-là, ils n'ont pas perdu leur job. Ils ont pas, des fois, ils ont été mutés. Ils ont changé le titre. Ou des fois, ils sont partis à la retraite un petit peu plus vite.
Bien, dans le cas des gens qui étaient à la Société d'assurance automobile du Québec, eux, ils ont été relocalisés avec une augmentation de salaire.
Une promotion pour une les promotion. Mettre ailleurs. On les met plus haut dans l'étagère. C'est comme dans une bibliothèque, ça. Tes livres les plus inutiles, t'es mets dans l'étagère d'en haut.
Ça arrive jamais dans une entreprise privée, ça, là.
Jamais, t'es mets dehors. Mais donc c'est... Il faut d'abord et avant tout réduire l'appareil d'État. Deuxièmement, ça prend plus de transparence pour que les gens soient informés, que les gens voient ça, que ça soit public. Fait qu'il y a deux façons de voir ça, tant qu'à moi, pour éviter, parce que on peut pas continuer à avoir un gouvernement aussi gros dans l'économie puis pas penser que des trucs comme ça vont se reproduire. Tant et aussi longtemps que tu as un gouvernement qui est trop gros, des choses comme ça se produisent. Je vais te donner un autre exemple. On vient de perdre 200 millions avec Santé Québec, là. Hein, le système informatique. Bien, si on faisait le programme du Parti conservateur, qui est d'avoir plus de privés pour faire de la concurrence, ça serait un désastre pour le système public parce que les privés, eux autres, il n'y a pas personne dans le privé qui paierait 200 millions pour rien puis qui sacrerait ça dans les poubelles, là. Donc, puis la façon dont on veut faire le système de santé, c'est que comme patient, vous avez le choix entre le public puis le privé. Puis si le privé est capable de faire la même chose, une intervention chirurgicale ou n'importe quel type d'intervention pour moins cher que le public, vous utilisez votre carte d'assurance maladie puis vous allez directement au privé si vous voulez. Si les délais sont déraisonnables au public, vous utilisez votre carte d'assurance maladie puis vous avez accès au privé. Bien, si le public gérait aussi mal qu'il gère présentement et que ce n'était pas un monopole, vous pouvez être sûr que ça serait beaucoup moins cher aller se faire soigner au privé, puis les gens se rueraient vers ça, puis tranquillement, le système public se ratatinerait de lui-même par ses mauvaises gestions. Mais là, la mauvaise gestion n'a aucun impact. Il n'y a pas un patient qui va quitter le service public aujourd'hui parce que Santé Québec a brûlé 200 millions, là. Il n'y a personne qui va rien faire. Il n'y a personne qui perd sa job, puis il n'y a pas un patient qui va aller se faire soigner ailleurs. On est otage d'un monopole public. Plus vous allez instaurer de la concurrence, moins ce type d'affaires-là va arriver. Je te donne un autre exemple, la SAAC. Si on donnait plus de pouvoir, par exemple, aux concessionnaires auto, quand ils vendent l'auto pour le plaquage, pour toutes sortes d'affaires de base, là, bien, il y aurait une concurrence. Pensez-vous que la SAAC aurait eu les moyens de mettre 1,1 milliard de dollars dans un site web transactionnel?
Ben non.
Il n'y a pas une compagnie, même les multinationales les plus grosses aux États-Unis, ne gaspillent pas 1,1 milliard pour un site web transactionnel. Donc, il y aurait une forme d'obligation d'être efficace ou sinon, il y aurait une sanction quand ils ne sont pas. Fait qu'au-delà de se scandaliser puis de taper ses doigts puis de faire une commission d'enquête, c'est correct là, qu'on le fasse. Je ne suis pas contre ça, là. Mais il faut penser qu'il faudra avoir un processus où il y a de la concurrence puis où ce genre d'affaires-là ne se produisent pas. Ici, là, on est dans une station de radio. Si demain matin, vous prenez une décision qui impacte autant puis vous signez des contrats de façon totalement farfelue avec des entreprises puis vous perdez des centaines de millions, bien, malheureusement, le micro va être fermé puis il va en avoir un autre qui va ouvrir l'autre bord de la rue puis qui va faire la même chose puis qui va... Puis vous allez perdre, vous allez tout perdre vos jobs, puis il va y avoir un impact. Puis ça va être triste pour vous autres que vous perdiez tous vos jobs, là. Mais au moins, il va y avoir une sanction, puis le système va arrêter les mauvaises décisions. Au public, c'est qu'on n'a pas, il n'y a comme pas de frein. Il n'y a pas personne qui arrête le mauvais système. Puis comment c'est que le gouvernement, tout ce qui touche, coûte 2, 3, 4 fois plus cher que tout le monde? Tu sais, pourquoi? Faut se poser la question, là.
Moi, un entrepreneur privé m'a dit, parce que c'est quelqu'un qui fait affaire avec le municipal, là, il m'a dit qu'il trouve ça tellement compliqué de faire affaire avec le municipal qu'il paye sur le crayon parce que t'as tout le temps 2, 3 fonctionnaires qui vont se mêler des patentes puis qui vont compliquer l'affaire. Puis lui, la dernière des affaires qu'il veut, c'est perdre de l'argent. C'est un entrepreneur. Oui. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais là, on parle de 200 millions qu'on va perdre pour ce qui est du dossier santé numérique. Puis, mais le contrat sera pas terminé, là. On va devoir recommencer à zéro dans les prochaines années.
C'est un peu gaspillage. C'est ce qu'un
ex-sous-ministre adjoint qui a travaillé sous la gouverne d'Éric Kerr, d'ailleurs, Steve Waterhouse, que tu dois connaître, me mentionnait. C'est qu'il y a tellement de systèmes différents au gouvernement au niveau de l'informatique. Là. Prenons exemple le nombre de langages qu'il y a sur Terre. Là. Bien, il y a des ordinateurs qui ne parlent pas le même langage. Fait qu'il faut trouver une patente à gosse qui va faire en sorte que ça va être connecté partout puis il n'y aura pas de problème. Mais bonne là, chance. Si on enlève ça, si on accepte de payer le 200 millions, il va falloir recommencer dans les prochaines années. Ce serait pas plus simple, justement, de continuer, même si ça nous coûte une fortune, puis après ça, revoir les contrats qui sont donnés, comme, de quelle façon est écrit le contrat?
D'abord, je pense que le fiasco de sa clique là, a fait peur à tout le monde, parce que là, c'est 200 millions, mais ils ont le bras dans le tordeur. S'ils ne tirent pas à plug maintenant, ça va peut-être être 3, 4, 5, 6, 700 millions dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'on a vu qu'il n'y a comme pas de fin. Hein. Puis trouvez-moi un projet informatique qui a été un succès au Québec ces dernières années.
Il n'y en a pas.
À toutes les fois qu'ils touchent à l'informatique, c'est un désastre. Et il n'y a pas... Encore là...
C'est tout le temps l'appel à l'aide à l'extérieur aussi. Comme si au gouvernement, les gens, il n'y a pas de programmeurs qui sont capables de faire ce genre de job-là.
Pire que ça, ils font même affaire avec des firmes étrangères alors qu'il y a des firmes québécoises qui sont capables de le faire pour moins cher. Vous avez vu ça, là? Ça aussi, on a entendu ça en commission Galant cette semaine. Là. Donc, c'est vraiment scandaleux. Puis le problème qu'on a, là, les gens qui nous écoutent ont l'impression qu'ils n'ont pas d'emprise, qu'ils n'ont pas de pouvoir par rapport à ça. On est des citrons qui se faisons siphonner puis qui payons pour ça parce que ces centaines de millions-là à gauche et à droite, c'est des milliards à la fin de l'année. Là, puis c'est de l'argent qui est directement collecté sur votre chèque de paye. Là. Puis vous avez l'impression qu'il y a un gaspillage éhonté. Puis c'est pour ça que je veux redonner espoir au monde. Parce que les gens disent, Éric, tu ne ferais pas mieux. C'est vrai, je ne suis pas un informaticien. Je n'aurais probablement pas été capable de faire mieux que ceux qui étaient là au niveau de comprendre ce qui se passait. Là. Tu sais, c'est pas, même les spécialistes avaient de la misère à comprendre ce qui se passait.
Mais de par ta façon d'être, ta façon de penser, tu as une pensée un peu plus à droite au niveau économique, tu aurais été pas mal plus vigilant.
Bien, un, puis deux, il y en aurait eu pas mal moins de contrats à distribuer. Il y aurait pas mal moins de monde à nommer. Parce qu'à partir du moment où tu décides que tu réduis la taille de l'État, que tu réduis pas juste le nombre de fonctionnaires par ministère là, en pourcentage, qu'il y a des missions fondamentales, comme par exemple les subventions aux entreprises, c'est bien de valeur, là, mais tous les gens qui sont affectés au Fonds de développement économique, tous les gens qui sont affectés, bien, on ferme la shop. Dire, y a plus, ça n'existe plus. Là. Fait qu'achalez-moi pas pour me vendre un système informatique qui va avec ça. Y a un bras de l'État qui vient de tomber. Là. Et c'est un des plus gaspilleurs, des plus chers aussi. Là. Donc, il faut recentrer l'État sur sa mission fondamentale, éliminer le plus possible de structures bureaucratiques, puis laisser le privé se concurrencer encore une fois. Je sais que ça paraît simple là, à dire, mais c'est très complexe à faire parce que la résistance à l'intérieur de la machine est très forte. Il y a des gens pour qui c'est leur raison d'être. Comprenez-vous que eux autres, plus il y a de fonctionnaires, plus ça leur donne d'employés sous leur gouverne, plus ça leur donne du prestige, plus leurs salaires sont élevés. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on ampute la taille de l'État, là. Donc, ça va être le vrai travail, là, ça ne sera pas de savoir que nécessairement juste les clauses dans le contrat. Oui, il va falloir faire ça, mais il va falloir faire aussi s'assurer qu'il y en ait moins de contrats à donner puis qu'il y a moins de fonctionnaires à nourrir.
OK. Éric Duhem, on revient un peu sur l'actualité d'hier. On a appris qu'il y avait un membre en règle d'un club de motards qui voulait se lancer comme conseiller dans une ville au Québec. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y avait pas de moyen démocratique de ne pas accepter sa candidature. Je trouve ça assez particulier. En même temps, on a vu les mêmes films. Tu sais, le jour où le parrain de Montréal, exemple, va vouloir la job à la mairie de Montréal avec de l'argent, avec des menaces, il va pouvoir atteindre justement les plus hauts sommets puis arriver à la mairie de Montréal. Comment on peut faire pour bloquer ça? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je suis content de vivre dans une démocratie. Tout le monde a des chances égales. Mais moi, des membres du crime organisé qui pourraient être élus, ça me fait peur un peu.
C'est intéressant parce que la question s'est posée, puis je l'ai vécu personnellement il y a deux mois dans Arthabasca. C'est un cas, je veux pas faire de parallèle, c'est pas le crime organisé, là. C'était des luttes anticapitalistes d'extrême gauche violentes, là.
On parle quand même d'un candidat qui a demandé à un agent infiltré, est-ce que tu serais prêt à prendre des cocktails Molotov?
Oui, oui. Puis à la tête d'une organisation où les gens ont été arrêtés avec des explosifs, là.
Exact.
Donc, puis qui a fait 41 jours de prison, puis qui a quand même plaidé coupable à des accusations criminelles. Puis je pourrais prendre un autre député péquiste, là, qui lui, il avait eu des accusations, puis il avait été finalement blanchi pour de la fraude au municipal, mais il y avait quand même la Cour supérieure du Québec, il avait quand même interdit de se représenter aux élections municipales, alors qu'il était maire de sa municipalité pendant au moins deux élections. Et pendant ce temps-là, il avait le droit de se présenter au provincial, puis il a été élu député du Parti québécois. Donc, puis l'autre, c'est évidemment, vous le savez, là, c'est mon adversaire dans Arthabasca. Est-ce que ça, si un autre parti avait eu ce genre de candidature-là, est-ce que ça serait passé? Moi, je me souviens d'une élection, pas si longtemps, où je me suis fait écœurer, bien, j'avais payé mon compte de taxe municipale en retard. Ça a fait 8 ou 9 jours de nouvelles non-stop. Okay? Là, on parle d'accusations criminelles. Je ne sais pas comment ça se fait que... J'ai l'impression qu'au Québec, il y a comme un double standard. Il y a des gens chez qui, des partis chez qui ça passe, puis il y a d'autres partis chez qui ça passe pas. Je me souviens, par exemple, à Ottawa, Bev Oda, qui était ministre du patrimoine sous Stephen Harper, a été obligée de démissionner après des semaines de scandale.
Dans un jus d'orange.
Elle avait payé un jus d'orange 15$ dans un hôtel. Okay? C'était de l'argent gaspillé des contribuables, là, mais c'était un jus d'orange de 15$. On était loin de se faire arrêter avec des explosifs. Là. C'est toujours le « est où la limite? » Moi, je l'ai mis... Je vais vous parler pour moi, parce que chaque parti et chaque chef fait ce qu'il veut. Là. Moi, pour moi... J'ai pardonné les gens qui, par exemple, j'ai déjà eu un candidat là, qui a été arrêté en état d'ébriété, qui a perdu son permis un an, qui a eu son pardon quelques années plus tard. Je le savais. Il m'a dit, puis il m'a dit, garde, voici ce que j'ai fait. J'ai fait une connerie, je me suis fait arrêter chaud au volant, j'ai payé ma dette à la société. Je l'ai accepté. J'ai accepté quelqu'un qui avait fait une faillite, qui me dit, garde, j'ai pris des risques, je suis un homme d'affaires. Ma business a mal tourné, je me suis fait fourrer par un associé, peu importe là, l'histoire, là, c'est pas important. Là. Puis après ça, je me suis repris en main, j'ai reparti une autre business, puis là, maintenant, ça va bien. Mais c'était quand même, c'est une tâche qui apparaît dans ton dossier, puis qui peut sortir, qui peut te sauter d'en face en campagne électorale. Ça, je l'ai accepté. Mais j'ai eu d'autres gens qui sont arrivés, puis qui avaient eu des gestes violents, puis qui avaient été accusés au criminel. Ça, je les ai pas pris. Fait que, tu sais, c'est. Mais c'est dur. Comme chef, là, tu sais pas trop où tu mets la limite. Parce que c'est vrai que tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais
un membre en règle d'un club de motards, c'est non. Un mafioso reconnu comme étant le parrain de Montréal, exemple, c'est pas arrivé encore. Mais le jour où ça se fera, j'espère qu'il y aura un moyen.
Mais où
avec
la limite?
Le directeur général des élections. Ben, moi, c'est le crime organisé, là, Eric. Là. C'est le crime organisé. Puis, tu sais, je suis très conséquent. L'histoire d'Alex Boissonneau, moi, j'en ai parlé. Puis, moi, c'est non. Là, il y a
moi
passé.
Non plus, je l'aurais pas pris.
C'est la démocratie qui s'est exercée. Puis, c'est bien correct. Je suis très heureux de vivre dans une démocratie. Puis, les gens sont pas obligés de penser comme moi. Alex Boissonneau, moi, ça aurait été non. Peut-être que ce sera le meilleur des députés d'Arthabasca qu'on aura jamais connu. Mais moi, ça aurait été non. C'est la même affaire pour cet individu-là qui veut devenir conseiller d'une ville alors que c'est un gars qui fait partie d'un gang criminel.
À un moment donné, il faut mettre une limite.
Ben oui.
Puis, de toute évidence, on n'a pas tous la limite à la même place. Puis même, j'écoutais, je ne sais pas si tu as vu le Vox Pop à TVA hier.
Le monde s'en crisse.
Le monde disait, bien, oui, il a le droit, puis il n'est pas payé que les autres.
Ça te dit à quel point les gens ont les politiciens en haute estime.
Non, mais...
Ils sont tellement désabusés, puis ils voient tellement de l'argent passer, puis ils ont l'impression de se faire avoir en tant que contribuable par des maudits crosseurs que sont prêts à accepter des gens qui font en sorte d'importer de la dope site, puis ça se ramasse dans les écoles. Puis, bien, oui, il a le droit de devenir conseiller. Bien, oui, il a le droit de devenir député. Je trouve ça fourrette.
Mais c'est là qu'est le problème, c'est qu'on a un niveau de cynisme tellement élevé dans la population par rapport à la classe politique. Puis là-dessus, tu sais, je ne vais pas le blâmer là, parce qu'il est à terre déjà, là, mais François Legault, là, il a contribué à ça. Il a contribué à augmenter le cynisme envers la population de toutes sortes de façons. Là. D'abord, par sa gestion. Là, quand les gens lisent à tous les jours qu'il y a des centaines de millions qui sont garochés à gauche et à droite, quand c'est que des fiascos, les investissements que Fitzgibbon a fait dans les entreprises, quand les gens sont pris à gorge, qu'ils voient qu'on paye plus de taxes et d'impôts que tout le monde puis que le gouvernement continue à dépenser puis leur donne pas de break, il y a une frustration. Quand les gens, moi je vais parler de très pour ma gang, là, mais quand 530 000 Québécois qui représentent plus qu'un Québécois sur 8 se retrouvent avec aucun député sur 125, il y a une frustration par rapport au système. Ils ont l'impression que le système ne travaille pas pour eux, il travaille contre eux. Et ça, il faut arrêter d'alimenter ça au Québec. Là. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de cynisme comme on en voit présentement. Là. C'est quand même assez fort. Puis ça fait en sorte que les gens, puis on l'a vu dans le Vox Pop à TVA hier, ils se disent, mais de toute façon, c'est tout des pourris. C'est ça que ça... La conclusion logique, ça mène là, là. Puis c'est pour ça que je le dis souvent, puis c'est pas une joke, là. Mon principal adversaire, c'est pas le PQ, c'est pas la CAQ, c'est pas les libéraux, c'est le cynisme. Moi, là, mon défi, c'est de faire voter du monde qui veulent plus voter, qui croient plus au système. C'est pas parce qu'ils veulent voter mon adversaire, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on est tous pareils. Et mon défi, c'est de redonner espoir puis de lui dire non, c'est possible de faire les choses différemment. Le système n'est pas à la base corrompu. Il faut changer les gens, il faut changer les idées derrière, puis on va être capable de faire quelque chose. C'est ça le vrai défi du Parti conservateur du Québec dans la prochaine année.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, était avec nous pendant 60 minutes. Je te remercie d'avoir été avec nous.
C'est moi qui te remercie de l'invitation.
Je te souhaite de passer un bon restant de semaine puis un super de beau week-end. Profite du beau temps qui nous reste, tant à Montréal qu'à Québec. Les températures sont exceptionnelles. On a eu hier où il y a eu un peu de pluie, mais là, on passe à d'autres choses. C'est du soleil jusqu'à dimanche. Je sais que tu travailles fort, mais profite-en.
Merci beaucoup, Yannick, à toi aussi et aux auditeurs aussi.
Pour ce qui est des autres, on se reparle demain matin. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Nine Inch Nails le 16 février prochain au Centre Bell.
Boulevard 102.1.
Votre pocheur d'étiquettes.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement leur promo « Tout un quart, tout un prix » avec la cuisse de poulet servie avec tous les accompagnements à seulement 8,95 $ au comptoir et au service à l'auto.
En montant dans le nouveau BZ4X chez votre concessionnaire, vous pourriez avoir l'impression que votre VUS a pris de l'avance. Parce que pendant que vous êtes encore en train de vous demander si vous avez oublié quelque chose, le BZ4X est déjà chargé. Tout ça grâce à la recharge programmée. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le ramener à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Découvrez nos nouveaux modèles emballants comme le BZ4X et vous comprendrez pourquoi Toyota, ça fait rêver. Visitez achetezmatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Le système de santé craque. Il manque plus de 2000 médecins de famille au Québec. Les ressources promises n'arrivent pas. Les équipes s'épuisent. On impose des réformes en niant les faits. On négocie à coups de projets de loi. Et les patients sont les premiers à en payer le prix.
Réformer la santé, ça doit se faire avec les médecins de famille, pas contre eux. Nous aussi, on veut que ça change.
Un message des médecins de famille du Québec.
Demain, dans la presse plus, coulisses, suggestions sorties et coups de cœur de nos journalistes. Le nouveau rendez-vous Sortir vous ouvre les portes de la scène culturelle d'ici. Chaque jeudi, dans les arts. Tout ça et bien plus dans la presse plus.
L'anxiété, la sensation de vide, l'épuisement, le mal de vivre. Des signes de détresse qui ne sont pas toujours visibles, mais qui peuvent être entendus. Au Centre de prévention du suicide de Québec, nous le faisons tous les jours pour des personnes suicidaires et pour des proches inquiets ou endeuillés à travers plus de 32 000 interventions chaque année. Par téléphone, par texto, par clavardage et en personne, nous trouvons les bons mots pour apaiser les mots invisibles. S'il vous plaît, aidez-nous à continuer. Donnez à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec.
Si vous voulez faire avancer le monde, on a le métier pour vous. Si vous voulez faire avancer votre carrière, on a aussi le métier pour vous. Être chauffeur au RTC, ce n'est pas seulement avoir un rôle clé pour la mobilité durable à Québec. C'est aussi un salaire de base débutant à 32 et 35 $. En plus, le RTC s'occupe désormais des frais de formation pour l'obtention de permis de classe 2. Postulez pour devenir chauffeur d'autobus dès maintenant au rtcquebec.ca/carrière. Au RTC, on fait avancer le monde.
Tout savoir et être diverti en fin de journée, écoute Gravel dans le retour, 14h.
La vérité.
Boulevard 102.1 maintenant, 100% parlé en semaine.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait quoi par terre, lui?
Ben, boss, je viens de dire que les camions Ram 2026 ont une garantie limitée de 10 ans ou 160 000 km.
Ben là, y a-tu dit de s'asseoir au moins?
Ouais, j'y ai pas pensé, boss.
T'annonces pas des affaires big de même sans préparer le monde?
Êtes-vous bien assis? Les camions Ram 2026 sont couverts par la meilleure garantie limitée au pays sur le groupe motopropulseur pour camions pleine grandeur. Jusqu'à 10 ans ou 160 000 km. Une autre preuve de l'engagement Ram envers la fiabilité à long terme. Certaines conditions s'appliquent, VAB exclu. Détails chez votre concessionnaire.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Pour un garage de quartier fiable et accessible à Limoilou, va chez Jean Fina Service. Pour un service à la clientèle exceptionnel, c'est Jean Fina Service. Pour un service mécanique hors pair et une expertise en pneus, Jean Fina Service. Prenez rendez-vous maintenant.
Profitez d'une offre exceptionnelle chez Gresh et Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes avant le 31 décembre et recevez deux paires en cadeau, dont une solaire. Oui, deux paires en cadeau. Dépêchez-vous. Chantal Gravel, l'opticienne. Détails et rendez-vous sur gresh-scarf.com.
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais!
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres!
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres.
Obtenez une nuitée d'une valeur de 270 $ à 202 $ chez Énergie Spa Nordique. Et un soin du visage complet d'une valeur de 125 $ à 62 $ chez Infinima Spa.
Mercado.fm, un verger de rabais.
Ce mois-ci, chez Volkswagen Saint-Nicolas, conduisez l'ID4 2025 et profitez de 5000 $ de rabais et d'un financement à 0% pendant 60 mois. Sans oublier la subvention gouvernementale de 4000 $. Volkswagen Scénic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth is dry. dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. My mind is set on an overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Right.